France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, José Bernès, Emmanuel Rose et Olivier Dehaye. Voici une nouvelle émission consacrée au compositeur Édouard Elgar, dont nous allons explorer aujourd'hui quelques partitions des années 1910-1914. Au début du règne de Georges V, Elgar a 53 ans en 1910, il est anobli depuis 6 ans. La réputation de Sir Edward Elgar a franchi les frontières de l'Empire britannique et le violoniste viennois Fritz Kreisler lui a commandé un concerto dont voici les dernières pages, interprétées par le jeune Yehudi Menuhin sous la direction du compositeur.
Thank you.
février 1932 au premier studio d'Abbey Road à Londres. L'Orchestre symphonique de Londres était dirigé par Edward Elgar pour accompagner le violon d'un Yehudi Menuhin de 16 ans dans le concerto qu'Elgar avait composé 22 ans auparavant pour Fritz Kreisler. Une célèbre photo montre Menuhin tout de blanc vêtu, partition en main, debout à côté d'Elgar qui s'appuie sur une canne. Une photo qui témoigne de cet enregistrement de 1932, donc 2 ans avant la mort du compositeur à l'âge de 76 ans. Pour l'heure sur France Musique, c'est un cinquantenaire dans la pleine force de l'âge que nous célébrons aujourd'hui. Elgar qui présente en 1911 sa deuxième symphonie en mi bémol majeur, opus 63. Une symphonie qui dédie à la mémoire du roi Édouard VII, disparu l'année précédente, une partition qui a été enregistrée également par Yehudi Menuhin, non pas en tant que violoniste, mais en tant que chef d'orchestre. Et des 4 mouvements de cette deuxième symphonie d'Elgar, j'ai choisi pour vous le deuxième, le mouvement lent Larghetto, qui est le cœur émotionnel de cette partition. On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une marche funèbre à la mémoire du roi défunt, mais les manuscrits montrent qu'Elgar avait entamé ce Larghetto avant la mort du roi, et que cette musique serait plutôt une réaction artistique à la mort d'un ami proche, un certain Alfred Rodewald, qui fut le premier à diriger Pompe et Circonstance d'Elgar, d'où certainement le caractère très personnel de cette musique, ici interprétée par l'Orchestre Philharmonique Royal, dirigée en 1990 dans ce même studio numéro 1 d'Abbey Road, par Sir Yehudi Menuhin, futur Lord Menuhin. Thank you. Sir Yehudi Menuhin dirigeait la musique de Sir Edward Elgar à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal dans le deuxième mouvement de la deuxième symphonie en mi bémol majeur, l'opus 63, dont Elgar avait dirigé lui-même la création en 1911. En obtenant d'ailleurs un succès assez mitigé, l'optimisme impérial des œuvres précédentes d'Elgar étant peut-être assombri par l'esprit du temps, par cette belle époque qui sentait venir, sans le savoir ou sans vouloir le reconnaître, le spectre de la guerre. Peut-être s'agit-il d'une surinterprétation de cette marche funèbre liée à la passation de pouvoir entre feu Édouard VII et Georges V, qui est le grand-père d'Elisabeth II. En tout cas, Georges V est couronné le 22 juin 1911 au son de nombreuses musiques, dont un chœur spécialement composé par Elgar, un chœur qui reprend les premiers mots du psaume 5. « Écoute mes paroles, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. » Oh, hearken thou unto the voice of my calling, my King and my God. Le deuxième verset du psaume 5, ainsi mis en musique pour la cérémonie du couronnement de George V en 1911 par Edward Elgar. Nous écoutions le chœur du festival de Brighton et l'orchestre de concert de la BBC dirigé par Barry Wordsworth.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors voilà la contribution intime, spirituelle d'Elgar à ce couronnement, mais on lui doit également une partition plus éclatante, plus extérieure, mais quand même très émouvante. Il s'agit de la marche du couronnement, qui ne pourrait être qu'une fanfare pompeuse de plus, mais cette marche du couronnement de 1911 possède une curieuse tonalité mineure qui semble encore porter le deuil du précédent souverain. En tout cas, c'est une marche de couronnement qui ne ressemble à aucune autre. Voici cet opus 65 de Sir Edward Elgar, interprété par des musiciens inattendus. Ce sont les Gabrielli Players de Paul McCreesh, qu'on entend surtout dans de la musique renaissance ou du premier baroque, comme leur nom l'indique, Gabrielli Players. Mais pour un disque de 2018 intitulé An English Coronation, un couronnement anglais, 1902-1953, McCreesh, eh bien ces Gabrielli Players jouaient ainsi la Coronation March, opus 65 d'Elgar. marche du couronnement de George V en 1911, musique de Sir Edward Elgar, interprétée par les Gabrielli Players, dirigée par Paul McCrish. Alors après son couronnement à Westminster, le nouveau souverain et son épouse vont voyager dans l'immense empire britannique. Et c'est en tant que empereur des Indes qu'il va assister à une cérémonie traditionnelle en Inde, le Darbar, audience publique du souverain donnée depuis des siècles. Et lors de ce Darbar de 1911, George V annonce le transfert de la capitale de Calcutta à New Delhi. Des photographies témoignent de la somptuosité de cette cérémonie indienne, de ce Darbar, avec des carrosses tirés par des éléphants, avec de gigantesques corps d'armée au garde-à-vous, des tentures, des soieries et autres turbans. Un événement que Elgar va musicalement commenter à Londres, au Théâtre Coliseum, l'année suivante, en mars 1912, dans un spectacle de Henry Hamilton d'une heure environ, un spectacle dont Elgar a écrit la musique de scène, partition coloniale, dont le titre est « La couronne de l'Inde »,« The Crown of India ».
Thank you.
avec quelques accents orientaux, mais sans aucune prétention ethnomusicologique. C'était un extrait de La Couronne de l'Inde, The Crown of India, l'opus 66 d'Edward Elgar, par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Sir Andrew Davis. Voilà donc trois partitions qui nous montrent le compositeur officiel Elgar, le chœur et la marche du couronnement, ou encore cette musique de scène coloniale. Mais Elgar avait également une muse plus intime que l'on perçoit dans sa musique de chambre, dans ses concertos et dans certaines pages d'oratorio, comme par exemple The Music Makers, les faiseurs de musique, une cantate de 1912 que Elgar a composée sur un poème assez faible d'Arthur O'Shaughnessy. Mais c'est une musique de premier ordre qu'on va entendre là, une musique dont Elgar avait dirigé lui-même la première à Birmingham. C'est une partition dans laquelle Elgar revient sur son passé de compositeur en citant des œuvres antérieures comme ses merveilleux Sea Pictures, comme Le Rêve de Géronte, ou encore comme la variation Nimrod qui ouvrait l'émission de mardi dernier, extrait des variations Enigma, une des mélodies les plus poignantes de toute la musique anglaise. La soprano Sarah Connolly avec le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC était dirigée par Sir Andrew Davis dans cet extrait de la cantate The Music Makers, opus 69 d'Edward Elgar.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voilà une partition qui nous a emmenés à l'année 1912, l'année des 55 ans de notre héros de la semaine. Elgar, qui était peut-être déçu par la faiblesse de ce poème d'Arthur O'Shaughnessy dans The Music Makers, Elgar va se plonger dans un univers beaucoup plus riche, celui du grand barde anglais William Shakespeare, et plus précisément dans les pièces qui mettent en scène le truculent Sir John Falstaff. Falstaff, c'est ce fameux personnage à la grosse bedaine dont la filouterie et les mésaventures avaient génialement inspiré Arrigo Boito, librettiste de l'ultime chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi. Alors, le Falstaff d'Elgar n'atteint évidemment pas au génie de celui de Verdi, mais c'est une partition de véritable jubilation orchestrale, de fantaisie, de plaisir simple dont Elgar avait dirigé la création en 1913 au festival de Leeds. Falstaff, opus 68, dont voici un large extrait, toujours par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Andrew Davis, sur France Musique et francemusique.fr.
Thank you.
Après la marche du roi Henri V, c'est le bannissement et la mort de Falstaff qu'Edward Elgar évoquait dans cette partition de 1913, Falstaff opus 68 d'Elgar, par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Sir Andrew Davis. Et nous arrivons bientôt au terme de cette émission consacrée à la fin de la Belle Époque dans l'œuvre d'Elgar. Demain, nous serons en pleine guerre, la grande guerre des Tommies, des soldats britanniques, une guerre à laquelle le vieux compositeur va musicalement participer. La guerre éclate le 28 juillet 1914 et trois semaines après, le 15 août 1914, Sir Henry Wood dirige au Queen's Hall de Londres une partition d'Elgar annonciatrice de bien des soupirs, une partition intitulé Sospiri, des soupirs en italien, l'opus 70 d'Elgar, qui nous permet d'entendre ici l'orchestre de l'Académie Saint-Martin-des-Champs, Saint Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. L'orchestre de l'Académie St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner, c'était Sospiri, opus 70 d'Edward Elgar, partition de 1914, annonciatrice du programme de demain.
À réécouter sur francemusique.fr.